Comment être heureux? La quête du bonheur. Dans le bouddhisme, il n'y a pas tellement de quête de plénitude ou de quête d'unification. Ces qualités sont décrites, mais c'est plutôt un chemin qui travaille sur le lâcher-prise et l'abandon. Et quand tout a été abandonné, ce qui reste, c'est le bonheur inconditionné. Et quand on a demandé au Bouddha, mais qu'est-ce que vous avez obtenu dans ce chemin? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il a dit, bon, moi, j'ai rien obtenu, j'ai rien trouvé. Mais je sais ce que j'ai lâché. J'ai lâché la colère, l'attachement, la frustration, le désir, la tristesse, l'angoisse. Et quand ce qu'on appelle les kilesa, ces énergies de l'ombre, ont été exposées à la lumière, elles lâchent, et ce qui reste, c'est ce qu'on cherche, fondamentalement. Nous sommes en quête de bonheur. Et il y a deux sortes de bonheur. Il y a un bonheur relatif, un bonheur codépendant, un bonheur du monde. Dépendant des conditions, lokiya en pali, et il y a un bonheur inconditionné, lokutara, un bonheur qui absolu, la fin de la souffrance, la perception dans l'instant que c'est assez, que tout est là. Et ce chemin de connaissance qui explore le qui suis-je, il vise à non pas avoir une préférence pour l'un ou l'autre, mais à bien connaître le bonheur ordinaire, cette quête, où nous avons plein d'envie et plein de peur à tous les niveaux, de manière à pouvoir nous ancrer de plus en plus dans cette connexion au bonheur inconditionné, de manière à pouvoir vivre dans le monde avec un moi comme il est, mais qui n'est pas tout seul, qui est accompagné de la présence. Et donc, c'est important dans ce chemin de connaissance de questionner de quoi est-ce que notre bonheur est dépendant. Et dans une retraite, nous le voyons bien, de quoi notre bonheur est dépendant. Chacun peut voir pour soi-même, parce que c'est différent pour chacun. Mais il y a quand même des aspects que nous rencontrons tous. La douleur physique, notre bonheur est dépendant de la douleur physique. En tout cas, tant que la présence n'est pas vraiment développée. Notre bonheur est dépendant d'une bonne expérience spirituel, et notre bonheur est beaucoup dépendant du regard que je porte sur tout ça. Nous aimons le calme, nous n'aimons pas l'agitation. Nous aimons la clarté, nous n'aimons pas la torpeur. Nous aimons La confiance, nous n'aimons pas le doute. Nous aimons l'équanimité, mais nous n'aimons pas le désir. Nous aimons la souplesse, l'amitié, nous n'aimons pas l'aversion. Et que nous n'aimions pas, c'est une chose. C'est normal que ce soit désagréable. Mais si nous voulons vraiment être dans un chemin de connaissance, c'est important de reconnaître ce pouvoir du système de croyance qui pense que c'est faux. C'est faux d'avoir une expérience désagréable. Le plus tricky, le plus malin des systèmes de croyance, c'est celui qui nous dit « tu dois être heureux ». C'est normal que tu sois heureux. Et dans nos vies, c'est pareil. Nous avons des envies, des peurs. Nous avons envie d'avoir des amis, nous avons peur de la solitude ou une famille, nous avons peur d'avoir loupé notre vie. Pourquoi ? Parce que de nouveau, il y a un système de croyance qui est joliment actionné par la société aussi et qui fait que nous compliquons terriblement les choses. Parce que si nous regardons objectivement, nous avons déjà tellement. Nous avons déjà beaucoup. Même si nous n'avons pas tout. Un bon job. Une stabilité psychologique. Oh là 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 là, attends voir là, ça commence à... Je ne veux pas, je ne veux pas. C'était tellement bien avant. Et le Bouddha a parlé d'une dépendance de notre bonheur en lien aux 8 attachements mondains. Nous avons envie de plaisir, nous n'aimons pas le déplaisir ou la peine. Nous avons envie de gagner, nous n'aimons pas perdre, même si nous avons bien assez de sous. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Nous avons envie d'être appréciés, loués, et nous détestons être critiqués et blâmés. Ça nous fait peur. Je meurs si je suis critiqué. Et nous aimons beaucoup réussir et nous détestons perdre. Échouer. Et bien sûr, c'est comme ça là, mais c'est comme ça chez l'autre. Il y a soit ce besoin d'existence où j'ai besoin d'être vue, d'être aimée, d'être la première, d'être valorisée. D'être... Et puis ce besoin de non-existence où, attention, il ne faut pas que je sois trop vue parce que je risque d'être la première, on ne sait jamais. Nous ne pouvons pas prendre notre place. Et soit nous la prenons trop, soit nous ne la prenons pas assez. Il y a une petite image que j'aime bien où il y a un gars tout dépressif qui dit « Ouh là là, moi je suis vraiment rien, là là, je n'ose pas être... » Puis à côté, il y en a un qui est tout bien, puis qui dit « Oh, mais moi, je suis absolument génial. » Mais c'est drôle, il n'y a pas tout le monde qui le remarque. Donc, notre bonheur dépend de cette manière où nous sommes ballottés au gré de nos envies, de nos peurs. Et c'est à tous les niveaux. Il y a ce « j'aimerais » qui veut dire que juste maintenant, il n'y a pas assez. Ou bien je veux garder, qui veut dire que je ne suis pas du tout ouverte à l'impermanence. Ou bien je ne veux plus avoir. Pas ça. Et c'est très important dans une retraite de repérer quand ces énergies viennent. Parce que nous ne pouvons pas lâcher ce que nous n'avons pas vu clairement. Ça reste dans une sorte d'ignorance, d'aveuglement. Et ce qui est intéressant, certains le partagent en entretien, c'est que il y a bien sûr des attachements profonds et essentiels et des peurs abyssales, le vide existentiel. Mais le processus qui fait que je ne veux pas lâcher, c'est exactement le même. Parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'expérience. C'est le lien que je crée à l'expérience. Et si je donne trop d'importance à ma douleur de dos ou à mon agitation ou à mon incapacité de me concentrer ou trop d'importance à « waouh, comme je pratique bien !» Ouais. Je vais donner trop d'importance à toutes les émergences qui arrivent et passent dans ma vie. Donc c'est très important de prendre de temps en temps du temps pour bien précisément connaître comment ça se passe. Parce que ce bonheur dépendant que nous cherchons, ça n'est pas un problème en soi, l'attachement n'est pas un problème en soi, mais c'est la non-connaissance de l'attachement qui crée une identification puissante et une montée énergétique au niveau mental. Et alors nous créons l'enfer. Nous pouvons créer le paradis, mais nous sommes assez bons pour créer l'enfer aussi. Des fois je me demande, est-ce que je suis dépendante d'enseigner la méditation? C'est intéressant. J'aime. Ça m'apporte énormément. D'ailleurs, l'enseignement sur le karma hier, après je me suis dit, oum, alors là, c'est un enseignement pour moi. Merci, Alexandre. Je vous lis quelques petites paroles du Moula Nasruddin qui illustrent la manière que nous avons de chercher le bonheur dans les attachements mondains. Il fut un temps où Nasruddin exerça le métier de juge suppléant. Un paysan vint le trouver. « Grand juge, je viens te consulter. Supposons qu'une vache attachée à un piquet blesse d'un coup de corne une vache errante. Est-ce le propriétaire de la première vache qui doit indemniser le propriétaire de la vache errante ?»« Certainement pas, » répond Nasruddin. « Une vache doit être tenue dans son enclos. » Si son propriétaire la laisse vagabonder, tant pis pour lui. Oh, merci Odja, je suis vraiment soulagée parce que c'est ainsi que ta vache a blessé la mienne tout à l'heure. Oh Seigneur Tout-Puissant, mais pourquoi n'as-tu pas donné dès le départ une narration complète des faits? C'est beaucoup plus compliqué que je n'avais imaginé. En fait, il faut que je consulte la jurisprudence. Qu'on m'apporte le gros livre noir qui est sur l'étagère. et puis une autre, puisque j'y suis. Un jour, Nasruddin se présente devant le sultan et lui dit « Majesté, j'aimerais beaucoup être à votre service et avoir un titre. Vous qui êtes tout puissant, pouvez-vous me nommer vizir ?»« Nasruddin, dit le sultan, je ne peux pas, tous mes postes sont repourvus. Je ne vois vraiment pas quel titre de vizir je pourrais te donner. » Ben, vous pourriez me nommer vizir en charge de la protection des éléphants de votre royaume, dit Nasruddin avec enthousiasme. Mais voyons, Nasruddin, tu sais bien qu'il n'y a pas d'éléphants dans mon royaume. Oui, mais quelle importance, Majesté, vous avez bien un vizir de la justice. Donc, il y a un bonheur qui est cherché uniquement dans l'expérience. Et si j'ai une bonne expérience, je suis heureuse. Et si j'ai une mauvaise expérience, je suis heureuse. Je suis malheureuse. Et ça crée à l'intérieur une sorte d'essoufflement parce que nous sommes toujours dans la projection, nous sommes toujours dans l'espoir. Dans le... C'est Woody Allen qui dit « Ah, je serais tellement heureux si j'étais heureux. » Il n'y a aucun intérêt pour chercher autrement. Et puis, quand nous commençons à pratiquer, nous commençons à voir. Peut-être ça ne va pas toujours marcher, ce truc. En fait, ça n'a jamais marché. Il faut un petit peu trouver autre chose. Mais c'est dur de trouver autre chose. C'est difficile de... D'abord, on comprend un peu avec la tête. Moi, je me souviens des discussions qu'on avait sur le non-moi. Difficile d'avoir une vue claire parce qu'il y a cet aveuglement de l'attachement de Tanha, de nos systèmes de croyances, de nos valeurs qui me font obstacle. C'est pas facile de lâcher prise et c'est tout le chemin. Nous commençons en étant dans le corps. On peut jamais être trop dans le corps. Et puis, nous investiguons. Il y a cette investigation de comment pratiquer, qu'est-ce qui est là maintenant, est-ce que j'ai la bonne manière de me lier à l'expérience. Et peu à peu, nous voyons nos schémas, nous voyons mieux combien nous sommes durs, combien nous avons peur, combien... Nous sommes réactifs, combien au fond nous supportons pas grand-chose. Mimi est chouchou, mais il supporte pas grand-chose. Et alors nous sortons de cette espèce de rêve où nous créons un moi surfait ou sous-fait. Pour venir dans le réel du maintenant. Et lorsque nous sommes totalement identifiés à l'expérience, nous avons l'impression que le bonheur est à moi, que le malheur est à moi, que c'est moi. Et puis bien sûr, quand je crois que c'est moi, je crois que c'est toi. C'est de sa faute, de ma faute. C'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Et puis, il y a des défis. Il y a des moments de vie qui activent le désir de sortir de cette roue du samsara. c'est souvent des expériences de souffrance. Et alors, tanha, cette qualité d'aveuglement où je suis enchantée par le monde intérieur et extérieur, commence à lâcher. Et ce qui prend la place, c'est une autre forme de bonheur. C'est ce bonheur de la présence. Et c'est ça qui devient important. Est-ce que je suis là? Et il n'y a plus cette confusion. Ça va bien, donc je suis bien là. Ça va pas, donc je suis pas là. Presque le contraire. C'est presque quand l'expérience douloureuse arrive que ça appelle la présence. Et alors, un certain équilibre s'installe. Parfois, il y a des attaques. On replonge. Et nous pouvons bien voir comment nous cherchons à maintenir, garder. Quand j'ai eu une bonne expérience, oh mince, elle est partie, oh mince. Alors quand je reviens m'asseoir, j'essaye de recréer, ça ne marche pas. Ou si ça marche, c'est encore une ou deux fois, mais après ça ne marche quand même pas. Et même des expériences du passé qui sont passées depuis longtemps, nous avons envie de reproduire. Mais c'est une confusion entre une expérience spirituelle qui est impermanente, conditionnée, et qui n'est pas à moi, je n'en suis pas propriétaire, et l'éveil qui ne peut être que maintenant et qui est cette confiance dans tous les maintenant qui est une force de présence stable parce qu'elle n'est pas moi. C'est pour ça qu'on peut dire que la présence c'est la seule chose qui soit permanente. C'est parce qu'elle n'est pas moi. Je peux y avoir recours n'importe quand, si j'y pense. Et c'est toujours la même chose, puisque ce n'est rien qu'un espace de réceptivité. Donc, quand notre présence est flagellante, nous pouvons nous attendre à avoir des attaques d'inquiétude, de colère, de frustration, de jalousie. Et quand on est dans le trouble aigu, c'est dur, hein? C'est horrible d'avoir une attaque de jalousie. Pas rigolo. Mais si je sais que c'est une attaque de jalousie, je suis déjà à moitié sauvée, hein? Nous avons ces trois caractéristiques qui quand même aident beaucoup au niveau de la sagesse, en plus de la présence. C'est de nous souvenir de l'impermanence, de nous souvenir que c'est dukkha, ça n'est pas ma faute. Tout le monde a ça, seulement cette saisie du moi nous fait nous sentir complètement seuls à être malheureux. Complètement seuls. À manquer le coche. Tous les autres réussissent hyper bien. trop d'importance au monde, hein, et c'est depuis la nuit des temps. L'injustice, hein, nous rend malheureux, la pollution du monde, la cruauté, le manque de soins, l'égoïsme forcené. C'est hallucinant, le monde que nous créons, hallucinant. Et ça a toujours été ainsi. Et c'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est le lien que je crée à tout ça. Et ça ne peut changer que maintenant, lorsque je connais mieux le bonheur inconditionné. Le lien avec le vrai refuge, la compassion. Le cœur souffre. Il y a dukkha. Et la question, c'est, mais comment agir? Parce que si nous agissons avec réactivité, nous ne faisons pas beaucoup de bien. Nous soulageons un petit peu en surface, mais... C'est une transformation de la conscience qui est nécessaire. Et ça, ça ne peut se faire qu'en nous-mêmes. Et après, notre manière d'agir est plus claire, plus compréhensive. Je pourrais être toi, donc je ne suis pas contre toi. J'agis pour stopper la souffrance, mais sans... créer quelqu'un de mauvais. La compassion, c'est une forme de bonheur inconditionné. Et elle a quatre côtés que je trouve intéressants à mentionner. D'abord, c'est la consolation. C'est la mère qui berce son enfant. Nous avons besoin d'être écoutés, d'être entourés de tendresse, de douceur. Mais c'est aussi une force, la compassion, une force de non-réactivité à la souffrance, une force puissante d'ouverture à tout, toutes les flèches qui viennent dans le cœur. Un ancrage puissant dans la compréhension, et le karma aide pas mal à mieux comprendre pour que ça lâche mieux. Et puis, il y a un côté... certains viennent avec cette qualité-là en entretien, un peu d'humour sur nos souffrances. Parce qu'on en fait beaucoup, hein. Puis des fois, c'est franchement pas si grave que ça. Et d'avoir juste ce petit sourire gentil. Mais oui, Mimi, c'est terrible. T'as fait un accident de voiture, c'est horrible. Est-ce que c'est si horrible que ça, si j'ai tué personne? Et puis même, la loi du karma, c'est dur pour le moi. Mais c'est surfait. Je ne sais plus qui c'est qui disait, ma vie a été remplie d'énormément de problèmes et de difficultés. La plupart d'entre elles ne sont jamais réalisées. Et puis l'autre aspect, c'est l'engagement. Nous méditons non pas pour être bien puis tout va bien, mais pour se mettre au service. J'aime beaucoup dans la Mahayana chez les Tibétains le vœu du Bodhisattva. Le Bodhisattva, il est libéré de ce monde de souffrance, de cruauté, de misère psychologique, dramatique, d'égoïsme forcené. Il revient dans ce monde pour aider les gens. Et l'exercice de la méditation ne sert qu'à ça, qu'à nous libérer de tous ces kilesa qui nous occupent tellement, pour qu'on puisse simplement être au service. Et combien c'est bienfaisant, quel bonheur c'est que de pouvoir lâcher cette obsession du moi. Ce qui est beau dans ce vrai refuge de la présence, c'est que peu à peu, nous pouvons vraiment tout accepter. L'orgueil. C'est terrible, l'orgueil. Hein? Parce que derrière, il y a la peur du vide. Hein? Il y a la peur du vide existentiel, de mourir. Alors l'orgueil, il se fixe, il veut défendre. Et c'est très difficile de gérer ça, parce que il se met tout de suite sur la défensive. Il essaye tout de suite de chercher des systèmes pour retrouver une stabilité, au lieu de se laisser perdre. Nous avons besoin, une fois ou l'autre, de nous laisser perdre. Nous ne pouvons pas faire un chemin intérieur sans... à un moment donné, accepter d'aller dans l'incertitude totale. Et plus nous avons de confiance dans le maintenant, plus nous pouvons nous laisser perdre sans totalement être envahi. Le problème, c'est que quand nous entendons tout ça, nous voulons absolument abandonner les kilesa. Moi, je veux abandonner tout ça, je veux plus d'attachement. Et nous nous faisons coincer, mais ailleurs, à juste un autre niveau. L'attachement ou non-attachement, c'est très délicat. Parce que l'abandon des kilesa se fait uniquement par la vision claire. Et la vision claire, elle ne peut se développer que si j'accepte de rencontrer l'émotion qui crée la confusion. Et c'est Suchito, je crois, qui dit « Être dans la confusion et le savoir, c'est le discernement. » Très important de savoir où il y a eu la flèche de le regard de l'autre. Il m'a regardé, même pas. Wow. Confusion. Ça fait de la confusion. Et à ce moment-là, souvent, nous cherchons à avoir clair. Je cherche à tout prix à voir clair. Ben, c'est vraiment pas le moment. Un peu de patience. Ça a émergé, là je suis dans le trou complet, là bon, il y a un trou, encore trou, encore trou. Ah tiens, plus trou. Ça fait comme ça. Mais comme nous n'avons pas confiance dans l'impermanence, comme nous n'avons pas apprivoisé l'impermanence, ben... je crois que ça va durer là toujours. Hein. Je crois que c'est permanent. La même chose que je crois que mon bonheur est permanent. Ah, oh, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et puis, 2 ans après... Oh. Ce bonheur de la présence, c'est quelque chose qui est en même temps tout petit, presque rien, et qui est immense. C'est juste l'instant, j'ai déjà dit, mais je redis, qui est assez. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de truc génial. C'est presque rien, mais c'est tellement, tellement assez. C'est du rien qui contient tout, on pourrait dire, hein, ou du plein de vide. Le bonheur de la présence, hein, de l'espace, du silence, du maintenant. C'est Ramakrishna qui dit « Seule votre présence toute nue est l'abondance inépuisable que vous cherchez désespérément. » C'est ça que nous trouvons. Et ce qui est incroyable, c'est que nous avons à faire tout un chemin, rencontrer l'ombre, méditer, trouver. Faire ami-ami avec les obstacles, remarquer quand il y a un facteur de l'éveil, pas tout de suite le prendre à moi. Il y a beaucoup de boulot, hein. Mais en fait, pour arriver où? Pour arriver où? Maintenant! Le nirvana, c'est la fin de l'attachement. Et pour que ça lâche, il y a un désir à développer puissamment, c'est le désir de l'éveil. Celui-là, ne le lâchez pas. Et manifestez-le. Ça ne suffit pas d'espérer. Oh, moi, j'aimerais tellement être libérée. C'est trop dur, tu vois. Me lever le matin, une demi-heure le matin. Pff, moi, j'aimerais vraiment beaucoup être libérée. Et nous sommes comme ça. Hein. C'est difficile d'être à la hauteur. Et puis c'est vrai que c'est aussi à rebours des valeurs du monde. Nous ne sommes pas tellement aidés, ni sur notre lieu de travail, ni dans les grands magasins, ni de... Ouf. Donc, tranquillement, nous voyons nos systèmes de croyances. Nous voyons combien nous créons des schémas. Et nous passons de cet aspect, de ce vent mental, au réel de l'expérience. Et le réel, c'est le maintenant, mais reçu de la bonne façon. Comment est le corps? Ah, respire, je le sens là, là, ok. Le cœur, oh, désagréable, ok. L'esprit, oh, ben, je ne sais pas comment c'est pour vous maintenant. Mais, de nouveau, sentir l'immense différence entre croire à l'histoire que me raconte la pensée. Tu es génial, tu es merveilleux. T'es nul, mais tu fais rien bien, il n'y a personne qui t'aime. Ou voir. Ah, c'est les pensées. Des pensées de jugement, des pensées de culpabilité, des pensées de rien du tout, un peu somnolentes, comme ça, torpeur, imaginaire, passé, futur. Mais le sentir dans votre corps, combien c'est différent. Parce que l'une est dans ce bonheur inconditionné. Ah, c'est une pensée de jugement. Et si c'est le jugement, il faudrait d'un Dieu. Et sentir combien nous sommes entravés, nous sommes emprisonnés dans le contenu mental, et combien nous nous libérons au moment où nous voyons quel genre de pensée c'est. Ça ne veut pas dire que c'est forcément agréable. Si je suis des monstres pensées d'inquiétude, ce n'est pas très agréable. Mais c'est très différent si je nomme « Ah, pensée d'inquiétude ». Que si je m'inquiète à mort et puis que ça continue. Nos systèmes de croyances sont puissants et ils peuvent être très destructeurs. Non seulement pour nous, mais pour les autres. Les systèmes de croyances qu'on peut imaginer, c'est hallucinant. Le pire, c'est à côté de chez nous, il n'y a pas si longtemps, avec les camps de concentration et tout ça. C'est un système de croyances dans lequel tout le monde est pris. C'est hallucinant. Donc, nous pouvons faire notre boulot de nous libérer nous-mêmes. Ça demande de l'énergie, des efforts, de développer la conscience, d'approfondir le chemin, et surtout de ne pas savoir, de questionner. Parce que le système de croyance, il sait. Il a établi une fois pour toutes que les choses sont comme ça. Et alors nous passons de mon bonheur au bonheur. C'est le bonheur. Et ça commence par le corps. Tout commence par le corps. Je ne suis pas sûre si je vous l'ai déjà lu, mais je ne crois pas. Ajahn Chah avait l'habitude de donner cette instruction : ne laissez jamais votre esprit quitter votre corps. Je vous l'ai lu. Si cela vous semble trop difficile à réaliser, au moins essayez. Dès que vous remarquez que votre esprit a quitté votre corps, essayez de le remarquer vraiment. Remarquez cette sensation. D'être sorti de vous-même, d'être emporté vers le haut, vers l'extérieur, d'être pris dans une abstraction. Vous pouvez ressentir de l'intérieur les tensions qui inévitablement sont apparues lorsque votre attention a été détournée. Et vous pouvez relâcher tout ça. Vous pouvez revenir en vous, tourner votre attention vers l'intérieur, la faire descendre dans votre corps, en réincarnant votre expérience. Vous l'avez, votre corps, maintenant. Le corps, il est tellement content quand on ne le laisse pas seul. Et il exprime sa reconnaissance. Il y a quelque chose de profondément bienfaisant qui s'installe lorsque je fais vraiment l'effort de ne pas le laisser seul. Et tous ces sentiments de vide existentiel redoutable, de sentiments de manque, de dévalorisation, de dureté avec soi-même, ça lâche parce que le corps est content. Il n'est plus tout seul. Ou Je vais finir avec une parole d'un frère catholique. Le monde ne t'apporte pas la joie, mais il ne peut pas non plus te l'enlever. Même si des gens volent ma vie pour la détruire, ils ne me prendront pas ma joie. Chaque nouveau matin, je n'ai besoin de personne pour sourire. Je ris tout seul, parce qu'il m'est donné de vivre un nouveau jour. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous rend heureux. Chaque instant est un cadeau. Prendre un moment en silence pour se faire le cadeau de l'instant. Thank you.